Bien, donc on va parler de ce
oui,
que
bah,
tu
on
viens
l'a
de dire.
dit, hein. Donc on va commencer
Ça tu as dit.
par le stockage sur Windows Azure. Peut-être vous remettre un petit peu en contexte. Quand on a lancé Azure, on s'est mis dans un contexte où on voulait de la très haute disponibilité, on voulait de la très haute capacité à servir, et donc on s'est imposé un nombre de contraintes très fortes à l'époque pour pouvoir tenir à peu près n'importe quelle charge. Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a dû retravailler sur une couche presque théorique, et on a fait d'ailleurs des publications à la CM et sur pas mal de congrès où on parle d'informatique dite appliquée, c'est ce que les scientifiques disent pour l'informatique théorique, expliquant un petit peu comment on allait mettre en place un système redondant, résistant et ultra rapide. Et donc ce que vous voyez ici, c'est un début de l'illustration justement de ce mode de fonctionnement avec les mécaniques de géoréplication et de validation à la volée des écritures permettant de garantir qu'on peut écrire rapidement sans jamais avoir de corruption et avoir 3 exemplaires en permanence de tout ce qu'on a écrit.
Et quand on dit 3 exemplaires, c'est 3 exemplaires dans le data center principal et 3 exemplaires également dans le data center où la redondance a lieu, sachant que ce qu'il y a au milieu, c'est une option. Si vous voulez un service qui est uniquement localement redondé, vous pouvez le choisir et c'est un peu moins cher. Ou sinon, vous prenez un service géo-redondé et c'est pareil, vous pouvez le prendre. Donc cette diapositive, elle est extraite d'une présentation complète, ainsi que, je crois, il y a un webcast, un white paper, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et je vous ai mis un lien, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un lien court, enfin en tout cas un lien que vous pouvez retenir, qui est akms/stockazazure, comment ça marche. Enfin, comment K marche.
Alors, du coup, il ne faut pas voir du tout le stockage Azure comme des machines qui vous répondent avec du disque derrière. On a bien des machines derrière le stockage Azure. Ces machines, ce sont des machines qui servent à servir des paquets de requêtes REST. Donc, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Vous leur parlez en REST et elles vous renvoient des flux d'informations divers et variés. Et ce qui fait qu'on est capable d'accéder à tous ces environnements depuis n'importe quel environnement, dès qu'on peut passer sur le port 80, fondamentalement, on est assuré de pouvoir manipuler ces environnements de stockage dédiés. Alors, à très bas niveau, ces environnements de stockage dédiés garantissent 3 copies de chaque exemplaire, la capacité à servir rapidement, etc. etc. Maintenant, vous n'allez pas manipuler des API REST bas niveau avec des notions aussi théoriques. Donc, on a mis par-dessus une couche d'abstraction. On a mis 4 couches d'abstraction, pour être précis. Et on va essayer de retrouver dans chacune de ces couches des notions qui sont familières de ce qu'on fait, soit en infrastructure, soit en développement, puisqu'on a un petit peu les deux qui s'opposent.
Alors, on a d'abord les blobs. Donc, les blobs, c'est en infrastructure et en développement, ce sont les fichiers, tout bêtement. Donc, c'est là où vous allez pouvoir avoir un fichier JPEG, un point date, un point autre chose.
VHD.
Et donc, entre autres, un point VHD, effectivement, c'est là où on va avoir les virtual hard disks qui vont être stockés sur cet environnement. Ensuite, on va connecter.
Je vais pas écorcher la concurrence. On a utilisé un système théoriquement propre sur lequel on a tout bâti, y compris les VHD.
Oui.
Et ça nous permet d'avoir les mêmes qualités pour les disques persistants que pour l'intégralité du stockage Azure.
Et donc, on va se connecter à ces VHD quand les blobs stockés sont effectivement des virtual hard disks. On va s'y connecter depuis les machines Windows, enfin les virtual machines Azure, donc soit Windows, soit Linux, avec des drives. Et donc ce drive, on viendra un peu plus dans le détail de la façon dont ça fonctionne, mais en gros, on est connecté un peu comme sur un SAN, sauf que là, c'est dans un mécanisme qui est adapté au cloud. Troisième possibilité, c'est d'utiliser des tables. Alors, on a appelé ça des tables, on ne sait pas pourquoi, mais c'est du NoSQL.
C'est des fichiers plats.
Donc,
c'est des fichiers plats. Chaque ligne représente CSV, une donnée indépendante des précédentes et on sait les requêter un peu en mode colonne, c'est-à-dire qu'on est capable de dire que à chaque ligne, il y a N et N et N enregistrements. On peut sélectionner les lignes sur lesquelles tel enregistrement existe, etc., etc. C'est l'équivalent du fichier de plat pour les logs ou des mainframes il y a quelques années.
Un point intéressant aussi, c'est que c'est fait pour stocker, par exemple, des logs ou des event logs de Windows, par exemple. On peut y stocker ce genre de choses ici. Ce qu'on n'a pas dit, peut-être, c'est que les comptes de stockage, par défaut, ils sont limités à 200 Tera, pour vous donner une idée.
Faites attention.
Faites attention. à ne pas les remplir. Et puis, le dernier, alors ce ne sont pas du tout des fichiers, parce que j'ai traduit en fait les diapositives, donc ce sont des queues. Et donc ça permet d'envoyer des messages entre typiquement les web roles et les worker roles au niveau du platform as a service. Donc au niveau infrastructure, ça ne va pas vous servir à grand chose, je pense.
Il y a peut-être des gens qui ont fait un peu de MSMQ ou MTS ou des choses comme ça dans le temps. C'est file d'attente, hein. Comme ça les gens confondent moins.
Oui, mais ça ne tenait pas. Donc, les blobs. Alors, d'abord, vous commencez, comme pour n'importe lequel de ces quatre éléments, par un compte de stockage, donc account, blob, core, Windows Net. Et puis, pour les blobs, vous allez avoir donc, le niveau compte, donc là, compte OZO, hein, la société exemple qu'on utilise régulièrement. Comme conteneur, vous allez avoir, par exemple, ici, deux conteneurs. Donc, ce sont, en fait, les répertoires de premier niveau. Et les conteneurs ne sont qu'au premier niveau. Donc, on va avoir images et vidéos. Et puis ensuite, le blob. Donc, première image, deuxième image, vidéo 1, etc. Ce qui est important de voir aussi, c'est que le blob lui-même peut contenir des slashes. Donc, c'est comme ça qu'on va avoir la notion d'arborescence un peu plus longue. Donc, avec, par exemple, je pourrais avoir dans le conteneur image le blob qui s'appelle répertoire1/pic01.jpg. Donc, suivant les outils, on va le voir sous la forme de conteneur, de répertoire et de blob, ou dans d'autres outils, on va voir directement conteneur et le blob avec ses slashes dans le nom. Et autre point important, c'est qu'on a des block blobs et des page blobs, et donc, mais on va y revenir. Donc voilà, c'est animé. Hein. Voilà, donc les block blobs et les page blobs. En gros, les block blobs, c'est un ensemble de blocs, comme l'indique son nom, et le but, c'est d'uploader tout un ensemble de blocs, en parallèle ou pas, à la fin, dire tout ça, ça fait un blob, et ce fichier-là, on l'écrit une fois et on le lit n fois. Le page blob, lui, est fait pour faire des lectures-écritures, donc typiquement, un disque virtuel sur lequel une machine virtuelle va tourner, ben, c'est un page blob. Vous pouvez uploader un VHD en block blob, mais ça ne marchera pas pour une VM, puisqu'effectivement, si vous ne faites que lire votre disque, ça ne va pas être terrible. Et on a des caractéristiques un peu différentes. Et on retrouve la limite de 1 Tera par disque de données, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, puisque c'est un page blob. Et c'est pour ça. Donc, Windows Azure Storage, tu veux montrer? Je montre comme tu veux.
Oh, je vais vous évoquer deux ou trois petits éléments qui vont autour. Donc, je vais demander à Benjamin de basculer. Je pourrais le montrer dans plein d'endroits. Je vais peut-être vous le montrer quand même au moins dans le portail, que vous voyez à quoi ça ressemble également dans le portail. Mais en gros, on sait aujourd'hui l'administrer depuis plein d'outils. Donc, on en a une partie dans le portail, on en a une partie dans Visual Studio, on en a également dans les consoles d'administration et la MMC. Il se trouve que Benjamin et moi, on a commencé il y a longtemps à faire du Azure Storage et il n'y a pas encore beaucoup d'outils. Donc, on s'est attaché à des outils qui sont produits par Microsoft. Mais vous retrouverez exactement la même notion partout.
Il y a aussi qu'on s'est promis de ne pas ouvrir Visual Studio aujourd'hui. Donc, on ne peut pas vous le montrer dans Visual Studio.
Voilà. Donc, vous voyez ici. Alors, vous voyez la partie de premier niveau, Deb, 3 semaines sur, démo Python, etc. etc. C'est le compte de stockage en lui-même. C'est celui dont le préfixe me permet de servir indifféremment des fichiers, des files d'attente, des tables, etc. etc. Ça, c'est la notion que vous allez créer vous-même. Attention d'ailleurs, dans les machines virtuelles, lorsque vous créez une machine virtuelle, il vous en crée un automatiquement qui a un nom à coucher dehors. Donc prenez la peine de créer vous-même vos environnements de stockage, c'est dans le portail. Et une fois que vous les avez créés, prenez également la peine de désactiver la géoréplication si elle ne vous sert à rien, puisque c'est la recopie automatique sur l'autre data center et ça a un coût de l'ordre de 30% de la facture globale de stockage. Donc ça, c'est les premiers éléments. Ensuite, comment ça fonctionne? Donc certains ont des noms un petit peu réservés parce qu'ils sont utilisés par l'infrastructure. Vous voyez par exemple là le $logs qui sert à accumuler les logs applicatifs et les logs systèmes de certaines de mes machines pour que je puisse voir un petit peu ce qui se passe, donc toute la mesure d'utilisation et les soucis rencontrés. Les autres sont des éléments que j'ai créés moi-même. Et par défaut, tout ça est protégé, c'est-à-dire que vous n'avez pas un accès direct en tant que monsieur tout le monde depuis votre navigateur à tout ça. Il y a un modèle de sécurité derrière qui est moins fin que ce qu'on aura dans un environnement traditionnel. En deux mots, on n'a pas d'ACL sur ce file system, ça ne marche pas comme ça. On a trois modes d'accès. Soit on a la clé magique qui déverrouille tout, l'équivalent d'une clé d'API. Et dans ce cas-là, vous avez le droit de lecture et écriture sur l'intégralité des blobs, et vous pouvez rajouter des conteneurs, enlever, supprimer, etc. Ça, c'est très bien pour une application côté serveur. Vous n'allez pas mettre ça dans un téléphone ou une tablette ou une application côté client. La deuxième façon, c'est de dire, moi, je veux ouvrir certains éléments de façon publique. Alors, soit pour toujours, et dans ce cas-là, on a dans les propriétés des conteneurs la capacité de dire, eh bien, j'aimerais beaucoup que mon conteneur ici soit, et vous voyez ici le contrôle d'accès qui peut être privé, public en lecture seule sur les blobs, ou bien public avec l'intégralité de l'exploration. Soit, et on peut aller, alors ici, vous pouvez rajouter des métadonnées, en plus de ces informations-là, et donc on peut rajouter sur un blob plein d'informations supplémentaires. Vous avez le droit de rajouter jusqu'à 8K de métadonnées par blob. Et ça, nous, on va s'en servir pour la sécurité. Et donc, vous avez la possibilité également de définir des politiques de sécurité qui vont exploiter ce système et qui vont vous permettre de dire, eh bien, je veux une URL à accès restreint. Donc, vous allez embedder dans votre blob un droit d'accès pour 2 heures, par exemple. Et vous allez rendre une URL spéciale à vos utilisateurs. Et par cette URL, ils auront accès au blob pendant les 2 heures qui viennent, même s'il est normalement privé. Donc, ça, c'est la première technique. Et puis la deuxième, on va repasculer sur les slides, la deuxième, c'est de faire la même chose de façon déclarative et donc de pouvoir révoquer les permissions. On ne va pas rentrer dans ce niveau de détail, voilà. Il nous faut quelques minutes pour explorer.
Ouais, donc en gros, si j'ai un image.jpg qui est dans un conteneur privé, du coup, si j'y accède, je vais avoir un HTTP 404. Je peux faire une shared access signature qui est ad hoc, et dans ce cas-là, je vais avoir tout un ensemble d'éléments qui sont là. Ou sinon, je peux le relier à une policy qui, elle, est dans le conteneur. L'avantage que j'ai avec la policy, c'est que je peux la révoquer. Donc, je peux interdire la policy, et donc l'URL, du coup, n'est plus valable parce qu'elle va pointer sur une policy qui, elle, a été révoquée. Donc, c'est en gros ce qu'on pourrait faire. On ne va pas avoir le temps de montrer parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Donc, juste pour vous dire, sur la partie Windows Azure Drive, comment est-ce que ça fonctionne, puisque dans les blobs qu'on a tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a le disque VHD, et comment est-ce que ma VM s'y connecte. Donc, on va avoir l'application qui se connecte à x2. Par exemple, qui va pointer sur le VHD qui est là, et donc faire les écritures dans le VHD. Et pour les lectures, il va aller chercher dans le cache local, donc dans le disque local qui est monté dans la VM. Et s'il a un cache miss, dans ce cas-là, il va aller rechercher dans le VHD qui est au niveau de mon OS. Vous avez... donc là, c'est la même chose, mais en... Il y a les animations.
Et voilà, ça, c'est la partie importante à retenir. C'est que du point de vue de votre système d'exploitation, ça n'est qu'un disque comme les autres. Voilà, voilà, on peut l'optimiser, mais c'est juste le driver Hyper-V disque qui sert à servir justement ce file system. Donc c'est pour ça que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a réussi à mettre Linux sur Azure. Hein. C'est parce qu'on a utilisé Hyper-V et les drivers standardisés d'accès au disque.
Et donc ça, vous avez sur le blog Windows Azure Storage, vous avez tout un tas de détails sur ce genre de choses. Donc ça, c'est extrait. Il montre par exemple que dans le platform as a service, ça fonctionne un tout petit peu différemment. Mais bon, voilà. Donc là, en tout cas, dans le machine virtuelle, ça marche comme ça. Windows Azure SQL Database. Donc tout à l'heure, je vous ai montré cette diapositive en vous disant qu'on n'avait pas parlé de Azure SQL Database. Et maintenant, on parle d'Azure SQL Database, donc, qui est la partie platform as a service. Donc une base de données en tant que service qui s'adresse plutôt aux développeurs qu'aux IT pros. Donc c'est pour ça qu'on va en parler pendant moins longtemps. Donc, est-ce que j'utilise SQL Server ou Windows Azure SQL Database? Donc, ce qui est important de retenir, c'est que c'est une technologie qui est commune, en fait. SQL Database, c'est un portage du SQL Server dans le cloud. Donc, on a tout un tas de mécanismes qui sont communs, et en particulier une application qui passe de l'un à l'autre d'un point de vue configuration, on va changer sa chaîne de connexion, mais c'est les mêmes mécanismes d'accès aux données. Donc en fait, on va avoir juste le fait de remplacer par mon serveur local par mon serveur.database.windowsazure.net, et puis on va avoir une authentification de type SQL, etc. Donc voilà les mécanismes. Après, une autre façon de voir lequel on utilise. En gros, soit on a assez, on veut juste une petite base de développement, et dans ce cas-là, Azure SQL Database est pas mal. Soit on veut des centaines de bases, et dans ce cas-là, Windows Azure SQL Database est pas mal. Après, au milieu, SQL Server est pas mal aussi. Donc voilà, ça peut être une des façons de voir comment utiliser l'un et l'autre. Mais vous avez également le tableau qui vous indique d'autres éléments.
Oui, il a deux caractéristiques amusantes. Dans les petits scénarios, c'est beaucoup moins cher que le fait d'avoir sa propre base installée dans une machine virtuelle. Dans les scénarios de taille moyenne, il faut jouer entre la facilité d'administration et les différences de comportement. Et à très gros volume, il a la capacité à accueillir des volumes assez généreux grâce à une technique qui s'appelle fédération, qui est une technique de sharding en gros relationnel. Et donc il y a deux endroits où il est très visible. Et au milieu, il faut choisir entre deux technos qui couvre le même spectre.
Donc, autre différence entre les deux, dans SQL Server, on a une machine, un SQL Database Server, en fait, lui, c'est juste un point de terminaison TDS, Tabular Data Stream, donc flux de données tabulaires. Mais il n'y a pas le F, là, je n'ai pas traduit complètement. Donc, voilà. Il y a aussi un mécanisme de pare-feu de SQL Database donc qui se configure soit au niveau du serveur Azure SQL, soit au niveau de la base elle-même, et on peut le faire en Transact SQL, entre autres pour la base par exemple. Comment est-ce que ça fonctionne? En gros, on a tout un tas de moteurs SQL Server qui fonctionnent sur des machines, et avant, on a des load balancers et des gateways, entre autres pour la sécurité, pour gérer justement ces mécanismes. Mais on y arrive en Tabular Data Stream, donc vraiment le protocole binaire qui permet d'accéder à SQL Server, ce même protocole. Donc voilà, comment est-ce qu'on crée une base de données? Donc c'est juste une démo dans le portail. Hop. Donc je ne vais pas le faire complètement, c'est juste pour vous dire que vous allez dans Data Service, SQL Database, Custom Create, vous lui donnez un nom, tac tac tac, et puis ensuite vous pouvez vous connecter et vous avez une base SQL Database, mais... Si, comme moi, vous avez faim, vous n'avez pas envie de voir la démo. Et puis, il y a SQL Data Sync qui permet de faire de la synchronisation entre SQL Azure Database et SQL Server. Et voilà, je passe la main à Thomas.
Alors, si tu peux lui passer un micro. Pardon. Ah oui, il a un micro.
Il a un micro.
Ça marche. Bonjour. Donc, je vais essayer de passer juste 10 minutes pour vous permettre de manger rapidement. Donc moi je vais vous présenter quelque chose qui s'appelle, une solution que Microsoft a acheté il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle StorSimple. Donc pour vous passer un peu l'histoire, donc StorSimple se définit comme un Cloud Integrated Storage, CIS. L'idée c'est d'effectivement proposer une solution de stockage, sauvegarde, PRA, qui intègre une offre cloud. D'un point de vue historique, c'est une société américaine qui est basée en Californie, à Mountain View. Elle a été fondée en 2009. On travaille avec elle depuis un certain moment. En 2011, ils ont été élus partenaire BizSpark de l'année. Et en 2012, le mois dernier, en octobre, nous avons annoncé que nous venions d'acquérir cette société. Alors, j'ai mis l'annonce et l'appliance. Quelles sont les questions, les problèmes qu'ils essayent de résoudre avec cette solution? L'idée, je ne vais pas vous refaire l'histoire, manifestement, les besoins en termes de capacité de stockage sont croissants. Chaque année, on a besoin de plus en plus de capacité de stockage pour répondre aux besoins internes. Les questions sont éventuellement, est-ce que j'ai assez de budget, surtout en ces temps-ci, pour répondre à ces besoins de stockage? Est-ce que je vais avoir assez de personnes en termes de qualité, pour répondre à qualité de service également? Est-ce qu'il faut que je rachète des disques, des baies de stockage en plus? Est-ce qu'il faut que je prévoie les pics ou la capacité dont j'aurais besoin de 3 ans, que j'ai besoin d'acquérir maintenant? Est-ce qu'effectivement mon modèle ou mon architecture répond à mes besoins? Est-ce que j'ai besoin d'acheter des bandes, ces fameuses bandes? Et la dernière question, c'est ce qu'effectivement j'ai des données que je peux déplacer vers un stockage plus économique. Donc, Pierre et Pierre et Benjamin vous ont expliqué le stockage Windows Azure. Effectivement, vous, population IT, vous avez vu un certain nombre d'éléments qui font que pour accéder à l'espace de stockage Windows Azure, il faut passer par des API, HTTP ou REST. Comment est-ce que je vais intégrer ça dans mon infrastructure existante ? Après, il y a un autre problème qui est, si je monte directement des espaces de stockage chez moi, je vais avoir le problème de la performance d'Internet, basiquement. Comment est-ce que ça va marcher ? Il y a aussi le problème de la sécurité, comment je vais gérer la sécurité de mes données ?
Attends, ça va se bondir par le déjeuner.
Pierre m'écrit des plus vite à n'en plus finir sur son écran. Donc, la solution Store Simple. Enfin, l'idée, c'est que donc, c'est effectivement des appliances. La façon dont ça va être vu par votre infrastructure, c'est que l'appliance Store Simple va exposer des volumes que vous allez pouvoir monter dans vos serveurs d'application, les petits carrés en haut, là. La façon dont ça va marcher au sein de l'appliance. L'appliance va en fait avoir trois niveaux de stockage. Un premier niveau qui sont des disques rapides, donc des SSD. Un deuxième niveau qui sera des disques plus économiques, mais avec des volumes plus importants, des SAS. Et un troisième niveau qui sera la partie stockage de Windows Azure. L'idée, c'est que du point de vue de votre application, ça va être vu comme un volume. L'appliance Store Simple va travailler au niveau de bloc de ces données. Et en fait, elle va faire tout un travail de manière à ce que, quand vous allez stocker des données, elles vont d'abord être stockées sur le SSD. L'appliance Store Simple va cette fois-ci travailler au niveau de blocs, va dédupliquer les blocs et les compresser pour que les données les moins utilisées soient migrées sur la partie SAS. Et puis pour les données encore moins utilisées, il va effectivement directement les envoyer dans Windows Azure. Alors il y a une partie encryptage qu'on peut mettre en place entre le deuxième et le troisième niveau. Il y a aussi une notion de backup, où effectivement on peut faire des backups des volumes, alors ou en local sur l'appliance, ou directement dans Azure. Voilà. On parle de cloud snapshot dans ces cas-là. Donc l'idée, c'est effectivement, comme il doit être marqué tout en haut à droite, d'avoir la rapidité des SSD, parce que mes données que je vais accéder fréquemment vont être stockées sur des SSD, voire sur des SAS. Par contre, la capacité de stockage au total va être énorme, et la totalité de ce que je peux stocker va être contenue, entre autres, dans Windows Azure.
Juste la Thomas, stockage. Ne redis pas cryptage, déchiffrement la prochaine fois.
Pardon ?
Ne redis pas cryptage.
Ne dis pas cryptage.
Bon, non, déchiffrement, ça sera beaucoup mieux.
Déchiffrement, pardon.
Voilà, je te fais passer sur la slide suivante parce que je te prends accéléré.
Merci. Bon, j'ai presque fini là. Les scénarios d'usage. Ce qu'on voit assez fréquemment sont effectivement des serveurs de fichiers et des serveurs d'archivage. Des scénarios de remplacement de NAS ou de systèmes de bande, à base de bande. Du stockage pour SharePoint et Exchange, en particulier pour SharePoint, ils ont développé un driver RBS. Le stockage de machines virtuelles, ils sont certifiés Hyper-V et VMware, et effectivement, le remplacement de stockage de niveau 2 et 3 de grande capacité. Quasiment fini, vous allez bientôt pouvoir aller manger. L'idée, c'est... Donc, il vous faut deux choses pour mettre en place ça. Il vous faut effectivement... une appliance Store Simple, donc il doit y en exister quatre modèles, avec des capacités de stockage différents sur les SSD, le SAS ou la partie Azure, et puis effectivement, un compte de stockage Windows Azure. Merci Benjamin. l'idée, j'aurais dû mettre un gros transparent orange, vous voyez, solde, ça m'aurait amusé. L'idée, c'est qu'effectivement, on a une offre, alors qui n'est pas que basé sur l'offre Store Simple, d'ailleurs, qui est valable pour les offres comme Vault. L'idée, c'est que pour un certain montant d'Azure, qui est $50 ou $100, nous vous offrons l'appliance et un an de support compris. Tout ça pour arriver sur des offres de ce type-là. Ils sont donc effectivement une offre qui est valable jusqu'au 31 mars 2013. Voilà, et j'ai fini.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Thomas. Donc, on se retrouve à 14h, parce qu'en fait, c'est vous qui allez rattraper le temps perdu, pour migration d'appli et retour d'expérience avec Thomas et Romuald, donc retour d'expérience de Compario.